grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Quelles sont les conséquences de la résistance aux antibiotiques sur notre santé dans les années à venir ? L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur une situation grave à travers le monde. Les antibiotiques ont certes sauvé des millions de vies, mais sont-ils encore un remède miracle ? Des bactéries super résistantes se sont adaptées à cette classe de médicaments. Et selon des experts sérieux, à l'horizon 2050, si rien n'est fait, ces bactéries rétives à tout traitement tueront des dizaines de millions de personnes chaque année. Dans les années qui viennent, il y aura de plus en plus d'infections urinaires, intestinales, dentaires, récidivantes, des MST à gonocoque difficiles à soigner, des plaies qui ne cicatrisent plus ou mal, sans compter toutes les maladies bactériennes que nous aurons du mal à traiter ou qui ressurgiront. Nous verrons ce matin ce qu'est un antibiotique, pourquoi ces médicaments ont-ils été des remèdes miracles, pourquoi sommes-nous devenus de plus en plus résistants aux antibiotiques, quelles sont les responsabilités, les médecins ont-ils prescrit trop d'antibiotiques sous la pression des patients, pourquoi notre assiette nous a rendu antibio-résistant et maintenant, que faire pour renverser la tendance ? Mobilisation générale ce matin sur un problème de santé publique majeur. Pour nous éclairer ce matin, les microbiologistes Antoine Andremont et Thierry Nas et le pharmacologue François Chaste. Toutes vos questions sur la résistance aux antibiotiques au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Dites-nous si vous êtes devenu résistant aux antibiotiques. Une émission en partenariat avec Arte. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Médecin et écrivain. Alors, chaque semaine, dans votre chronique, alors voilà, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui, on va imaginer un monde horrible où ce sont les hommes qui tombent enceintes et ce sont les femmes qui les soignent.
À tout à l'heure. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Vous êtes ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale. Chaque mois, vous visitez un laboratoire. Coup de projecteur sur quelle équipe en fin d'émission ?
L'équipe de Jean-Sébastien Sylvestre et le professeur Ménaché sur l'insuffisance cardiaque.
À tout à l'heure Thierry Lhermitte. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
En septembre 2016, une session extraordinaire a eu lieu aux Nations Unies. Elle rassemblait des professionnels soucieux de la résistance aux antibiotiques. C'était le signe que les Nations Unies avaient pris conscience de l'importance de la question. Depuis sa création en 1945, l'ONU n'avait organisé que 3 sessions extraordinaires pour traiter d'une question de santé.
La résistance aux antimicrobiens pourrait devenir la première cause de décès dans le monde à l'horizon 2050. Et surtout, son coût économique pourrait se monter à 100 000 milliards de dollars, soit 2 à 3,5 % du produit mondial brut. Tous les indicateurs sont au rouge.
Et on vient d'entendre l'ancien ministre britannique Jim O'Neill dans le documentaire d'Arte « Antibiotiques, la fin du miracle ». Bonjour professeur Antoine Andremont, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste à l'université Paris Diderot et vous avez publié chez Bayard « Antibiotiques, l'overdose ». Bonjour docteur Thierry Nas.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, co-directeur du service bactériologie hygiène à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Bonjour professeur François Chaste.
Bonjour.
Chef de service des pharmacies des hôpitaux de Paris Centre, vous avez publié les médicaments en 100 questions. Alors professeur Antoine Andremont, avant de s'intéresser à la résistance aux antibiotiques, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une bactérie qui en règle générale nous vaut plutôt du bien ?
Une bactérie, c'est un être vivant, autonome, qui existe sur la Terre depuis extrêmement longtemps, beaucoup plus longtemps que toute autre forme de vie et que nous, bien sûr, peut-être 1000 fois plus longtemps que nous. Donc c'est des petits animaux, tout petits, on peut pas les voir à l'œil nu, hein, mais qui, comme ils ont été là les premiers, se sont adaptés à tout ce qui s'est passé après et se sont habitués à vivre dans toutes les conditions qui sont survenues à la surface de la Terre et nous en faisons partie. Si bien que nous avons beaucoup de bactéries sur la peau, beaucoup de bactéries dans notre tube digestif, et que cet ensemble de bactéries, eh bien, on vit avec et on s'en porte très bien. Et puis malheureusement, quelques-unes de ces bactéries, elles sont très peu nombreuses en fait, quelques-unes de ces bactéries, de temps en temps, peuvent nous rendre malades. Et c'est ça qui les rend aussi présentes dans l'histoire, avec la peste, le choléra, la tuberculose, la syphilis, la gonorrhée, et j'en passe.
Alors, quelles sont les maladies à infection bactérienne les plus fréquentes, Thierry Nasse ?
Alors, l'infection la plus fréquente, c'est l'infection urinaire. Donc, notamment en ville, par exemple, c'est la première cause d'infection. Notamment des bactéries qu'on appelle les entérobactéries. Donc, c'est des bactéries qu'on porte naturellement dans le tube digestif et qui, pour la plupart, sont des bactéries qu'on appelle des symbiotes. C'est-à-dire, elles s'habituent à vivre avec nous et elles participent à un certain nombre de synthèses, d'acides aminés, tout ça, de métabolites dont on a besoin. Mais en même temps, c'est notre pire ennemi parce que ce sont des bactéries qui peuvent donner des infections chez l'homme.
Professeur François Chasse, c'est quoi exactement un antibiotique ? J'ai un abcès dentaire, mon dentiste me prescrit des antibiotiques. Quel est le mode d'action de cette classe de médicaments ?
Alors, les antibiotiques agissent donc sur les bactéries. Disons tout de suite que les antibiotiques n'agissent pas sur les virus. Ça, c'est très important pour la suite de notre discussion. Et que sur une bactérie, il y a plusieurs cibles possibles d'action. La paroi bactérienne, la reproduction, des éléments contenus dans le cytoplasme de la bactérie et qui vont être indispensables à la survie de la bactérie ou à sa reproduction. Donc, plusieurs cibles possibles. Et souvent, d'ailleurs, quand on associe des antibiotiques dans le cadre d'une stratégie, dans le cadre de ces infections sévères, on cible divers lieux de sensibilité de la bactérie, sa paroi, sa reproduction, de telle sorte que on ait une éradication de la bactérie que l'on cherche à éliminer de l'organisme. Un des éléments les plus sournois de l'organisation bactérienne et de son évolution, c'est que la résistance des bactéries, c'est-à-dire cette adaptation à un environnement hostile, elle a plusieurs mécanismes d'action liés au patrimoine génétique qui est contenu dans le chromosome de la bactérie, mais aussi dans des formations qu'on appelle les plasmides qui sont extérieures à ce chromosome, tant et si bien qu'on pourrait dire que la bactérie transmet ses capacités à résister non seulement à ses enfants, fils et filles de la bactérie mère, mais également à son conjoint, à ses voisins, à tout son environnement. Et il y a une transmission verticale vers la descendance, mais également horizontale vers les voisins de cette bactérie. Et là, évidemment, ça pose des problèmes que les microbiologistes, que les pharmacologues doivent résoudre.
Alors Antoine Andremont, rappelez-nous pourquoi Alexander Fleming a été considéré comme un bienfaiteur de l'humanité.
C'est réellement un bienfaiteur
c'est
de l'humanité.
C'est un bienfaiteur, évidemment.
Parce que il a découvert le premier antibiotique. Il a mis en évidence qu'un produit, qui venait d'ailleurs d'un autre organisme vivant, hein, d'un champignon, un peu ces moisissures, vous savez, qu'on voit sur dans certains fromages ou sur certains légumes quand on les laisse pourrir, eh bien, avait des propriétés extraordinaires pour tuer les bactéries. Et ça a changé la face de la médecine.
Il découvre la pénicilline en 1928.
Il la découvre en 1928. Les premiers patients sont traités un peu avant 1945. Et en 1945, c'est l'explosion de l'efficacité de ce merveilleux médicament.
Et quelles sont les graves maladies que la pénicilline a réussi à soigner, Thierry Nasse ?
Alors, il y a plein de pathologies qui ont été traitées, notamment toutes les infections des tissus mous, donc de la peau par exemple. Et c'est vrai que la première utilisation, c'était sur les champs de bataille lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc évidemment, tous les blessés de guerre ont pu être traités contre les infections les plus courantes, qui étaient les infections à bactéries Gram+.
Il faut dire que les militaires payaient également un lourd tribut aux maladies vénériennes. La gonorrhée, la syphilis, et il se trouve que la pénicilline a longtemps été un traitement formidable, très rapide, alors que jusque-là on avait des médicaments à base d'arsenic, de bismuth, les sulfamides étaient vraiment très peu efficaces, et donc on a eu pour la médecine militaire, une véritable révolution, blessures de guerre et maladies vénériennes.
Alors, entre les années 1950 et 80, l'industrie pharmaceutique met sur le marché des antibiotiques de plus en plus puissants. C'est dans ces années-là, dans ces décennies-là, qu'on découvre les antibiotiques à large spectre, Antoine Andremont.
Oui, on s'est mis à découvrir, à la suite de Fleming, de nouveaux antibiotiques plus puissants, actifs sur d'autres maladies, par exemple la tuberculose. La pénicilline ne fait rien à la tuberculose. On s'est mis à trouver des antituberculeux qui ont fait disparaître la tuberculose, non pas de la surface de la Terre, mais du moins de la peur qu'on en avait. L'industrie pharmaceutique a été incroyablement productive et les médecins et la société ont, j'allais dire, adoré ce progrès puisque il
vous dites permet... même, vous écrivez même que nous avons pris goût au confort antibiotique.
Absolument, le confort antibiotique, c'est de ne plus avoir peur quand on a une intervention, d'avoir une infection post-opératoire, des interventions très banales, une césarienne par exemple, des choses comme ça. Donc les progrès de la chirurgie ont pu être prodigieux. La chimiothérapie, qui fragilise beaucoup nos organismes quand on en a malheureusement besoin pour le traitement d'un cancer, ne serait pas possible sans antibiotiques pour nous couvrir en quelque sorte pendant la période de fragilité, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de la médecine, non seulement dans les infections très banales comme les infections urinaires, si vous avez encore la chance d'avoir votre grand-mère vivante ou votre arrière-grand-mère, vous pouvez lui demander ce qu'était une infection urinaire avant le traitement des antibiotiques. On prenait pas son comprimé et on n'allait pas au travail ce jour-là.
François Chaste.
Oui, il y a des maladies qui ont disparu grâce aux antibiotiques. Les endocardites infectieuses sont devenues rarissime. C'était une grande frayeur pour les pédiatres des années 50 et 60. Et puis quand l'antibiothérapie est arrivée, qu'on pouvait traiter cette infection à streptocoque des valves cardiaques, alors là, on a eu vraiment un changement du tout au tout. Et quand Robert Debré a utilisé le traitement de la méningite tuberculeuse par la streptomycine, on avait enfin des enfants qui ne mouraient pas.
Alors le 10 décembre 1945, lors de la remise de son Nobel, Alexander Fleming avait prévenu sur la résistance aux antibiotiques, Antoine Andremont. Il nous avait prévenu.
Oui, c'était vraiment un homme extraordinaire, parce que il a fait cette découverte, mais il n'en a pas été grisé. C'était un type assez calme, en fait. Il a dit, attention, il faut bien utiliser la pénicilline, sans ça les microbes vont s'habituer. On a probablement trop utilisé les antibiotiques et les microbes se sont habitués.
Alors vous avez tous regardé le documentaire Antibiotiques, la fin du miracle, qui sera diffusé demain soir à 20h50 sur Arte. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un film de salubrité publique. Ce documentaire m'a vraiment ouvert les yeux sur l'urgence de la situation. Antoine Andremont, vous partagez mon enthousiasme?
Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce film et je recommande vivement à vos auditeurs de le regarder demain soir. Il met en scène un certain nombre des personnes qui ont réellement alerté la communauté internationale sur l'importance du problème, qui ont découvert des mécanismes de résistance qui sont extrêmement inquiétants aujourd'hui. Et on peut citer en particulier un des intervenants qui s'appelle Timothy Walsh, qui est un Britannique.
Microbiologiste.
Microbiologiste britannique, qui est vraiment le plus en avance sur ces domaines-là.
Thierry Nas.
Ah oui, tout à fait, c'est un reportage effrayant. C'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien, au Centre National de Référence. On reçoit des souches qui sont résistantes à quasiment tous les antibiotiques, voire même à tous les antibiotiques. Et donc, en France, au jour d'aujourd'hui, on a des situations d'impasse thérapeutique maintenant, chose qui était totalement inconcevable il y a encore quelques années. Et tout ça, c'est le fruit de l'évolution de la résistance vers la totorésistance.
Le problème avec la résistance aux antibiotiques, c'est que c'est pas spectaculaire. C'est un fléau insidieux qui avance à bas bruit.
Oui, c'est surtout quelque chose dont on n'est absolument pas conscient. Par exemple, quand on part dans certains pays, on a une forte probabilité d'acquérir une bactérie multirésistante. Et on peut très bien porter cette bactérie dans le tube digestif sans pour autant s'infecter. Et donc c'est quelque chose qui évolue à bas bruit.
François Chaste.
Oui, effectivement, ce film qui sera présenté sur Arte demain soir est un film un peu angoissant. Je voudrais faire deux commentaires. Il est très éclairant sur l'interaction de la santé humaine et de la santé animale. Je pense que jusque dans les années 80, on a sous-estimé l'utilisation exagérée, intempestive et inutile des antibiotiques dans la santé animale. Et alors du coup, alors que dans le domaine du médicament, on a l'habitude d'une interaction simple entre le médicament et l'homme malade, ici c'est beaucoup plus complexe. On a le médicament, bien sûr, l'antibiotique, la bactérie qui est la cible, le malade qui est le porteur de cette bactérie que on souhaite la plus sensible possible, mais les animaux qui constituent un réservoir formidablement dangereux pour la bonne utilisation des antibiotiques.
On y reviendra tout à l'heure. Baptiste Beaulieu.
Oui, j'avais une question à Thierry Nasse. Quand vous parlez d'impasse thérapeutique, pour que les auditeurs comprennent bien, on parle par exemple d'une femme qui a une cystite et qu'on ne peut pas soigner, par exemple, et qui va rester avec ses symptômes de cystite jusqu'à la fin de ses jours.
Alors, effectivement, une impasse thérapeutique, c'est une maladie, enfin une infection pour laquelle il n'y a plus d'antibiotiques disponibles efficaces.
Allez, voilà. Nous attendons toutes vos questions sur la résistance aux antibiotiques au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Dites-nous si vous êtes devenu résistant aux antibiotiques. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Bauve, et c'est réalisé par Claire Destacan. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh baby, baby, it's a wild. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. It's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl. Cat Stevens interprétait Wild World.
Alors, il m'a dit que son petit frère était guéri.
Oui, grand bien vous fasse.
Il a pris des antibiotiques.
Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Sur France Inter.
Vous disiez, Thierry Lhermitte.
Wild. Wild World. Très bien, merci. Merci, vous avez bien fait de venir ce matin. 10h26, mobilisation générale ce matin contre la résistance aux antibiotiques. Une émission en partenariat avec Arte et son documentaire Antibiotiques, la fin du miracle. Écoutons le microbiologiste de l'université de Cardiff, Timothy Walsh, qui évoque l'antibiorésistance depuis le Bangladesh.
C'est une guerre longue, faite de nombreuses batailles. Quand on voit l'allure à laquelle les bactéries sont capables de se développer et d'acquérir une résistance aux antibiotiques, il est évident qu'aucun pays ne sera épargné. C'est un problème planétaire. Nous avons fermé les yeux bien trop longtemps. Nous nous sommes mis des bâtons dans les roues. Nous n'avons pas voulu comprendre et prendre cette question à bras-le-corps. Je crains que ce qui se passe ici ne se répande dans le monde entier. La menace est imminente. D'ici 2040 à 2050, nous serons de retour à l'ère pré-antibiotique, c'est-à-dire comme au 19e siècle, où les antibiotiques n'existaient pas et où les gens mouraient de maladies infectieuses banales. Nous en sommes à deux doigts.
Le microbiologiste Timothy Walsh, est-ce que vous partagez, professeur Antonin Dremont, professeur Thierry Nas, professeur François Chaste, ce cri d'alarme, Antonin Dremont?
Oui, tout à fait. Le cri d'alarme de Timothy Walsh est extrêmement bienvenu et complètement véridique. La difficulté est celle que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir l'insidiosité du phénomène qui fait qu'on a du mal à s'en rendre compte.
Et qu'on a du mal à se mobiliser, Thierry Nas.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un problème de santé publique majeur et pas uniquement dans les pays en voie de développement. En France également, c'est vraiment planétaire parce que les premières souches qui sont arrivées en France, c'était par l'intermédiaire du rapatriement sanitaire par rapport aux touristes qui revenaient en France et qui s'infectaient ensuite en France. Maintenant, on a une diffusion autochtone, c'est-à-dire ces bactéries, elles diffusent sur le territoire national, mais initialement, c'était de l'extérieur qu'elles venaient. Et il y en a encore beaucoup qui viennent de l'extérieur.
Concrètement, que risque-t-il de se passer si d'ici 2050, la situation ne change pas? Donnez-nous des exemples, Antoine Andremont.
Alors, vous avez commencé à en citer, hein, dans les maladies extrêmement courantes, les infections urinaires qui seront aussi difficiles à traiter qu'avant, la gonorrhée, la chaude pisse qui sera aussi difficile à traiter qu'avant, et puis des pans entiers de la médecine qui vont s'effondrer. Les interventions chirurgicales lourdes, les chimiothérapies, tout ce qui fragilise l'organisme ne sera plus possible sans couverture antibiotique.
François Chaste.
Oui, alors, ma vision est pessimiste. On ne peut être que pessimiste, malheureusement, devant ce constat. Mais il y a une petite lumière qui peut s'allumer, une lumière d'optimisme. C'est un peu comme le climat, finalement, l'antibiorésistance. On a pris conscience, on prend conscience, peut-être avec du retard pour l'antibiorésistance par rapport à la prise de conscience du danger du réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a, ça bouge au niveau du climat, ça doit bouger en matière d'utilisation des antibiotiques. Et comme pour le climat, on a des solutions, on a des pistes pour faire en sorte que cette résistance régresse et que les antibiotiques soient préservés dans le cadre d'un bon usage.
On reviendra sur ces pistes tout à l'heure. On a un témoignage sur notre page Facebook. Comme beaucoup de nourrissons en crèche, notre fille a été malade de nombreuses fois au cours de sa première année. Elle a notamment fait des otites à répétition, toutes soignées par antibiotiques. Notre fille a 5 ans maintenant. Sa dernière otite a résisté au premier traitement à base d'antibiotiques. Mais sur ce type de pathologie bénigne, quel recours avons-nous, Thierry Nas?
Hélas, on n'en a aucune, à part les antibiotiques. Il ne faut pas oublier que ces molécules sont des molécules, entre guillemets, miraculeuses, et qu'elles soignent et qu'elles sauvent des vies. Donc il ne faut pas non plus décrier ces molécules. Par contre, comme disait le professeur Chaste, il faut les utiliser à bon escient et de manière raisonnée. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut jouer. Par exemple, en France, on est parmi ceux qui consomment le plus d'antibiotiques en ville.
Geneviève, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Haute-Savoie, bienvenue.
Absolument.
Quelle est votre question?
Bonjour à tous. Alors oui, moi je me pose une question et je vous la pose forcément. Voilà, on parle beaucoup de la résistance aux antibiotiques à cause de la consommation excessive de médicaments. Mais les animaux que nous mangeons sont complètement blindés d'antibiotiques. Alors là, voilà, est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur notre santé et notre résistance aux antibiotiques, même si nous n'en consommons pas de façon médicale? mais que nous en consommons de façon indirecte par le biais de notre nourriture.
Antonin Bromont.
Alors, merci beaucoup pour votre question parce que elle est très judicieuse. Effectivement, les animaux de la chaîne alimentaire, les animaux industriels, consomment des antibiotiques de façon variable d'ailleurs dans selon les pays. Il y a des pays où cette consommation est beaucoup plus élevée que dans d'autres. En Europe, elle est assez bien contrôlée. Et alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande que vous mangez. Hein, les traitements antibiotiques sont arrêtés suffisamment longtemps avant l'abattage pour qu'il n'y ait pas d'antibiotiques dans ce que vous mangez. En revanche, les animaux ont dans leur tube digestif, comme ça a été dit précédemment, et comme les humains, des bactéries résistantes. Et ces bactéries résistantes, par l'intermédiaire des produits alimentaires, peuvent arriver dans votre domicile, et donc que vous soyez en contact avec ces bactéries, et ça représente effectivement une source de bactéries résistantes pour l'homme.
Merci beaucoup Geneviève pour votre question. Alors comment on en est arrivé là? Pourquoi sommes-nous devenus résistants aux antibiotiques? Quelle est la responsabilité des médecins et des patients? Thierry Nas.
Alors c'est multifactoriel, il n'y a pas vraiment un responsable. C'est sûr que la consommation d'antibiotiques n'améliore pas les choses, mais je pense qu'effectivement, la grande consommation d'antibiotiques dans le monde vétérinaire en est pour quelque chose. Dans les années 90, la résistance aux antibiotiques, c'était quelque chose qui était restreint à l'hôpital. Dans les années 2000, on a vu apparaître de la résistance en communauté. Et la seule explication de cette apparition en communauté est peut-être justement par l'intermédiaire de l'ingestion d'aliments qui étaient contaminés avec des bactéries multirésistantes. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Et d'ailleurs, maintenant on parle de One Health, c'est-à-dire c'est une santé globale, animale, vétérinaire, même environnementale, pour vraiment arriver à contenir ce problème.
Mais est-ce que tout de même les médecins ont-ils prescrit trop d'antibiotiques sous la pression notamment des patients?
Alors les médecins, ils sont peut-être pour quelque chose. Il y a une étude il y a quelques années qui avait suivi 10 000 angines. Donc les angines, 70 à 80% des angines sont virales et donc pas d'antibiotiques. Et donc sur les 10 000, il y en avait 3 000 qui avaient eu un test de diagnostic rapide. C'est un test très rapide, vous prélevez un peu dans la gorge et en quelques minutes, vous savez si c'est bactérien ou non bactérien. Et sur les 10 000 qui ont été traités aux antibiotiques, seuls 3 000 ont eu un test rapide. Ça veut dire que 7 000 ont été traités sans documentation microbiologique. Donc ça, c'est évidemment de la surconsommation d'antibiotiques.
Et la responsabilité des patients, quand on ne suit pas bien son traitement antibiotique, qu'on ne suit pas la posologie, la durée du traitement, ça contribue à la résistance aux antibiotiques?
Alors, on pense qu'effectivement, d'arrêter le traitement trop tôt, ça peut conduire à l'émergence de la résistance.
François Chaste.
Oui, ce problème de la mauvaise consommation des antibiotiques, elle est bifactorielle en quelque sorte. On en a prescrit trop et on continue d'en prescrire trop et on les prescrit mal. Et puis, prescrire, c'est le rôle du médecin, mais il y a l'interaction avec les patients. Il y a une forte demande des patients en matière d'antibiothérapie lors de la consultation. Et puis, les patients se disent que l'antibiotique qui a bien fonctionné sur le cousin ou la maman, ou etc., ben on peut le prendre soi-même, on n'a pas besoin de retourner chez le médecin. Et puis, quand les symptômes disparaissent, ben on arrête. Et souvent, on arrête trop tôt. Et puis, au fil des semaines, des mois, ben les rechutes apparaissent. Et tout ça pose des problèmes, au point que la France est quasiment au ruban bleu de la consommation d'antibiotiques en Europe.
Baptiste Beaulieu, vous qui consultez dans un cabinet médical à Toulouse, vous le constatez ça, ce que vient de nous dire François Chaste, Thierry Nas?
Ça demande une énergie constante de tous les jours de faire prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. Et moi, je suis jeune médecin et je veux essayer de faire mes preuves, montrer aux gens que je suis un bon médecin, évidemment. Et c'est très dur de voir dans leurs yeux, quand on leur a dit non, qu'ils s'en vont du cabinet, et on voit dans leurs yeux que on n'est pas un bon médecin parce qu'on n'a pas prescrit d'antibiotiques.
Alors en 2001, professeur Andremont, la campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique » était très efficace. La consommation a chuté d'un quart en 5 ans. C'est quand même formidable.
Ah, c'est.
Mais ça ne s'est pas reproduit par la suite, cette campagne de santé publique.
Cette campagne a marqué les esprits, elle a été extrêmement efficace, tout le monde la connaît. Il y a eu d'autres campagnes ensuite dont personne ne se souvient, donc la communication, ça marche et il faut en faire dans le domaine.
Thierry Lhermitte, question.
Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous m'avez dit, à savoir que
hors antenne, la
diffusion de ces bactéries résistantes, elle pouvait être silencieuse. Parce que quand on se dit que tout le monde va être résistant, on se dit tout le monde va être malade. Non, ce qui est pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça que j'ai compris et qui m'a vraiment intéressé.
Oui, en fait, il y a deux types de bactéries. Il y a les bactéries pathogènes, comme par exemple Neisseria gonorrhée, qui donne donc la maladie vénérienne dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des vrais pathogènes. Quand on a cette bactérie, on s'infecte. Mais après, il y a ce qu'on appelle les pathogènes opportunistes. C'est toutes les bactéries de notre tube digestif, les entérocoques, les Escherichia coli, notre meilleur ami. Ces bactéries-là, au moment d'une faiblesse du système immunitaire, peuvent nous infecter. Il y a encore 10 ans, elles étaient multisensibles aux antibiotiques. Vous preniez n'importe quel antibiotique, vous traitiez à merveille cette infection. Maintenant, ces bactéries deviennent de plus en plus résistantes et donc on est obligé d'utiliser des molécules de plus en plus à spectre élargi. Et ces bactéries-là, on peut les porter dans le tube digestif pendant... Alors, il y a des études qui ont montré qu'on peut les porter pendant des années, sans pour autant être infecté. C'est les bactéries du tube digestif, on se porte très bien. Par contre, on peut disséminer ces bactéries. Et on peut disséminer ces bactéries à des personnes qui sont immunodéprimées, des patients qui vont aller en réanimation, donc, ou des patients greffés, et ainsi de suite. Chez qui ces bactéries-là peuvent avoir des conséquences néfastes du fait du manque d'antibiotiques pour traiter les infections.
Question pleine de bon sens de Joël sur notre page Facebook. Je voudrais savoir si une personne est résistante aux antibiotiques ou si ce sont les bactéries qui sont résistantes. Professeur Andremont.
Oui, ce sont les bactéries. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les antibiotiques, ils ont cette propriété de ne pas être actifs sur nos propres cellules. C'est même pour ça qu'ils sont aussi peu toxiques. Ils sont terribles pour les bactéries et nous, ils nous font rien. Donc quand on les prend à mauvais escient, on n'en a pas de mauvaises conséquences immédiates en apparence, sauf que nos propres bactéries deviennent résistantes.
Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, vous êtes écrivain et médecin, et chaque lundi, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, Ali, la semaine dernière, le SINGOF, le premier syndicat des gynécologues obstétriciens de France, s'est dit prêt à entamer une grève des IVG pour rehausser un fonds de garantie financier qui les aide en cas de faute grave. Le SINGOF, c'est le syndicat dont le président, Bertrand de Rochambeau, avait comparé dans l'émission quotidien l'IVG à un homicide. Bien. Imaginons un monde où ce seraient les hommes qui porteraient les bébés dans leur ventre, un monde où les femmes pourraient mettre enceintes les hommes chaque fois qu'ils ont un rapport sexuel. Imaginons que dans ce monde-là, des andrologues obstétriciens, des gynécologues pour hommes, aient monté un syndicat. Imaginons que ce syndicat regrouperait 1600 professionnels entièrement dédiés à la santé sexuelle des hommes, soit dirigés par des femmes. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas ? Maintenant, imaginez que la présidente de ce syndicat, Berthe de Rochambeau, revendique son refus d'accompagner les hommes dans la libre maîtrise de leurs testicules. Parmi toutes les spécialités médicales, elle a choisi la seule spécialité où elle savait dès le début qu'elle aurait à pratiquer des IVG. Imaginez que ce syndicat, représentant la seule profession au monde avec les sages-femmes entièrement dédiées à la santé sexuelle des hommes, prétendent, par la voix de leur ancienne présidente Jeanne Marty, être prêt à faire la grève des IVG, c'est-à-dire brader la santé des hommes et les droits des hommes à disposer librement de leur corps. On serait choqués. Oh là là, mais c'est quoi ces nanas qui sont censées nous soigner, nous les hommes, mais qui prennent en otage nos testicules et s'en servent comme levier de négociation avec le gouvernement? C'est non déontologique. Évidemment, on se tournerait vers le Conseil de l'Ordre des médecins pour qu'ils prennent des sanctions. Mais comme le Conseil de l'Ordre est aussi dirigé par des nanas, faut pas trop compter là-dessus. Eh bien, ce syndicat, il existe dans le vrai monde et son ancien président, Jean Marty, n'ignore pas que menacer de faire la grève des IVG va susciter une polémique. On instrumentalise donc d'abord l'utérus des femmes et on instrumentalise ensuite les voix des féministes, car on sait qu'en s'indignant, elles serviront de caisse de résonance à ces revendications. Cette instrumentalisation au carré, elle est indigne d'un syndicat de soignants ayant dédié leur vie au service de la santé des femmes.
Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. On peut voir votre chronique en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site de France Inter et bien évidemment sur votre blog. Alors voilà, coup de projecteur ce matin sur la résistance aux antibiotiques en partenariat avec Arte.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
En 5 ans, les agriculteurs américains à eux seuls ont donné 227 tonnes d'antibiotiques à leurs troupeaux. Dans la plupart des cas, ces médicaments n'étaient pas destinés à des bêtes malades. On les utilisait pour augmenter leur masse musculaire, accélérer leur croissance ou encore les prémunir contre des maladies potentielles parce qu'ils étaient élevés dans des hangars pleins à craquer et des parcs d'engraissement. Il ne leur est visiblement jamais venu à l'esprit que les bactéries résistantes qui se formaient dans le ventre des animaux du fait de l'adjonction d'antibiotiques dans leur nourriture n'y restaient pas confinées. Et pourtant, elles se répandaient à l'extérieur par les excréments du bétail et infectaient l'environnement. De même, lorsque on abat les animaux et qu'on leur retire l'estomac et les intestins, les bactéries se retrouvent dans la viande destinée à la consommation. Il y a donc au moins deux modes de transmission. Par les fermes d'élevage qui contaminent l'environnement et par la viande qui arrive dans nos foyers et nos cuisines.
Extrait du documentaire Antibiotiques, la fin du miracle. Professeur Antoine Andremont, pourquoi a-t-on donné autant d'antibiotiques aux animaux qui n'en ont pas besoin? C'est encore le cas aux États-Unis, en Chine ou au Brésil. Ce n'est plus le cas dans l'Union européenne. Enfin, antibiotiques étaient donnés comme facteur de croissance. Hein.
Oui, parce que effectivement, de donner un petit peu d'antibiotiques aux animaux, ça les fait grossir un petit peu. Et ça, donc, ça participe au système de production très intensive de la viande, quelles que soient les espèces, hein, que ce soit les volailles, les bovins, les ovins. Et comme l'industrie alimentaire est devenue très productiviste, les antibiotiques ont été un des moyens d'augmenter cette productivité. C'est vrai que maintenant, on sait, et les exemples sont très démonstratifs hein, dans les pays du Nord, qu'on peut élever aussi bien des antibiotiques et avoir autant de rentabilité des animaux, pardon, et qu'on peut avoir une aussi bonne rentabilité des élevages avec beaucoup moins d'antibiotiques.
Et il faut savoir que l'on peut retrouver des bactéries résistantes dans les fruits et légumes à cause du lisier qui sert comme engrais.
Oui, absolument, parce que chacun d'entre nous sait bien qu'il y a des excréments hein, qui sortent des fermes. Et ce sont d'excellents engrais. Donc, ces excréments qui contiennent beaucoup de bonnes choses, mais aussi des bactéries résistantes, sont utilisés comme engrais.
Thierry Nas, une séquence très forte hein, dans le documentaire, des staphylocoques résistants en provenance d'élevages industriels et qui se propagent dans la nature grâce aux conduits d'aération.
Oui, tout à fait. Les bactéries, en fait, elles vont utiliser des supports, des poussières, pour disséminer dans l'atmosphère. Et c'est vrai, jusqu'à 500 mètres autour d'un élevage intensif, notamment aux États-Unis, on a montré ça, l'élevage de porcs ou de poulets, on peut retrouver ces bactéries résistantes dans la terre. Et donc, évidemment, ensuite, un agriculteur va planter des légumes, des céréales, et on va récupérer ces bactéries dans la récolte des aliments.
François Chaste.
Oui, je voudrais préciser que, alors on parle beaucoup de réglementation européenne en ce moment. En Europe, depuis 2006, cette pratique est interdite. C'est-à-dire qu'on ne peut utiliser les antibiotiques que sur des animaux malades d'infection.
Mais elle n'est pas interdite aux États-Unis, au Brésil ou en Chine.
Malheureusement.
Et on mange de la viande brésilienne, états-unienne,
moi,
chinoise.
Moi, je n'en mange pas, mais parce que vous allez dans des restaurants exotiques.
Mais, merci beaucoup.
lorsque l'on va chez son boucher, on a une viande française qui est exempte d'antibiotiques, comme on pourrait dire, ajoutés. Au même titre que les sucres ajoutés.
Thierry Nas, qu'est-ce qui se passe quand des bactéries devenues résistantes s'installent dans notre flore intestinale?
A priori, pas grand-chose. Elles vont rester là jusqu'au moment où on va être un peu immunodéprimé. Et à ce moment-là, elles vont donner des infections urinaires en ville ou alors à l'hôpital. Tout type d'infections, ça peut aller aux bactériémies, aux pneumopathies, sous ventilation. Tout type d'infections, parce que ce sont des pathogènes opportunistes.
Vous voyez, l'histoire classique, c'est celle d'un couple qui va en Inde, comme on le disait tout à l'heure, qui revient avec des bactéries résistantes dans son tube digestif, 12 heures d'avion au retour, on boit pas beaucoup, situation idéale pour madame pour faire une infection urinaire au retour. Et pour monsieur, s'il est plus âgé, eh bien, il peut faire une prostatite au retour, et à ce moment-là, cette prostatite aura beaucoup plus de chances d'être avec une bactérie résistante et difficile à traiter.
La prostatite, c'est l'inflammation
la prostatite,
de la prostate.
C'est l'infection de la prostate, ça survient chez les hommes de plus de 60 ans en pratique.
Bonjour Julien, bienvenue, vous appelez de Nantes.
Oui, bonjour à toute l'équipe. J'aimerais savoir... Alors, j'ai pratiquement jamais pris d'antibiotiques. Pourquoi, du jour au lendemain, comme ça, je peux devenir antibiorésistant, sachant que je n'ai jamais pris d'antibiotiques, donc mon corps n'en a jamais pris. Alors, pourquoi je vais être résistant?
Très bonne question, Julien, parce que dans le même sens, Eric d'Issy les Moulineaux nous dit « Je ne prends jamais d'antibiotiques, je mange bio. Est-ce que je suis exposé à la résistance aux antibiotiques ?» Thierry Nas.
Oui, tout à fait, on est exposé. Tous ceux qui voyagent, par exemple, tous les touristes qui partent en Inde, sur de nombreuses études maintenant, 100% d'entre eux reviennent en portage avec une entérobactérie résistante à pratiquement tous les antibiotiques, voire même à la plupart des antibiotiques, y compris les antibiotiques de dernier recours. Donc, au travers du tourisme, on peut très bien se coloniser avec une bactérie de ce type-là, sans pour autant s'infecter. On ne s'infecte pas systématiquement avec ces bactéries-là, on peut rester porteur pendant des années.
Merci beaucoup, Julien, de nous avoir appelé. Alors, quelles sont les solutions face à cette résistance aux antibiotiques? Que peut-on faire à titre individuel, à titre collectif? Antoine Andremont, quelles sont les pistes? Là, d'ici 2050, on l'a vu, on est très, c'est très effrayant ce qu'il risque d'arriver. Quelles sont les solutions, concrètement?
On peut appuyer sur l'accélérateur et appuyer sur le frein. Il y a les deux types de solutions. Appuyer sur le frein, ça veut dire diminuer les consommations d'antibiotiques inutiles. Thierry Nas a rapporté tout à l'heure l'histoire des angines qui, par exemple, qui sont un excellent exemple. Dans l'industrie agroalimentaire aussi, on peut faire aussi bien en termes de production avec beaucoup moins d'antibiotiques. Donc ça, c'est diminuer les consommations. C'est pour ça que dans le livre, on a parlé d'overdose, hein, parce que on peut réduire la dose. C'est pas si compliqué que ça. Et puis, d'un autre côté, il faut essayer de trouver des nouveaux antibiotiques. C'est très compliqué. Ça pose des problèmes économiques considérables, ce qui fait que l'industrie pharmaceutique est très réticente, parce que les antibiotiques, c'est des médicaments très bon marché.
Pourquoi ils sont réticents?
Parce que les antibiotiques, c'est vendu à un prix extrêmement bas et que ça coûte extrêmement cher à développer. Et donc, d'autres domaines de la recherche industrielle sont beaucoup plus rentables que les antibiotiques.
Quelles sont les lueurs d'espoir tout de même, Thierry Nas?
Alors, il y a plusieurs lueurs d'espoir. D'une part, il y a de nouveaux antibiotiques qui vont arriver. C'est un espoir pour les pays industrialisés parce que ces antibiotiques sont vendus très très cher et donc ça va être réservé vraiment à des pays qui ont les moyens. Les pays en voie de développement, malheureusement, ne vont pas tout de suite en bénéficier. Il y a un problème dont on n'a pas parlé du tout, c'est la fabrication des antibiotiques. Tous les antibiotiques sont fabriqués dans deux pays au monde. C'est l'Inde et la Chine. Et ce sont les deux pays où l'antibiorésistance est la plus élevée. Et des collègues indiens qui sont amusés à prélever les effluents des industries qui fabriquent les antibiotiques en Inde ont constaté des concentrations supérieures aux concentrations qu'on a dans le tube digestif de l'homme. Donc peut-être il faudra également regarder à ce problème-là. Parce que fabriquer un antibiotique en France, c'est très cher. Or, maintenant, avec les génériques, la plupart sont fabriqués à l'étranger, dans des conditions pas forcément idéales. Et c'est dans ces pays-là que l'antibiorésistance est la plus importante.
François Chaste.
Oui, je voudrais, dans les solutions que l'on peut apporter, insister sur la question de l'hygiène. Lavage des mains, on ne se lave pas assez les mains. Alors, on a appris à l'hôpital à le faire, avec, par exemple, des solutions hydroalcooliques. Et il faut que, dans les familles, dans la vie quotidienne, la solution hydroalcoolique soit également utilisée. Ça s'achète en pharmacie, bon. L'hygiène dentaire, l'hygiène buccale, qui est souvent une cause d'infection. Déficit d'hygiène, infection. Et d'ailleurs, quand on a une prévision de chimiothérapie, la première chose que le prescripteur de la chimiothérapie vous demande, c'est d'aller chez le dentiste pour régler tous les problèmes intercurrents possibles.
En quelques mots, professeur Andremont, quelle politique de santé publique doit être menée dès maintenant au niveau français et au niveau européen? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn?
D'abord que je salue son action dans le domaine parce que elle est engagée dans ce problème. De son passé médical, elle connaît très bien l'indispensable caractère des antibiotiques chez les malades graves et elle est très engagée dans ce domaine. Alors en fait, moi je pense qu'il nous faut un nouveau Fleming. Quelqu'un qui fasse une innovation de rupture, quelqu'un qui découvre quelque chose que je peux évidemment pas nommer, sans ça, voilà.
Thierry Nas, vous serez peut-être le prochain Alexander Fleming ou vous, professeur Antoine Andremont. Merci à tous, je vous remercie, professeur Antoine Andremont. Je recommande la lecture de votre ouvrage « Antibiotiques, l'overdose » chez Bayard. Merci, docteur Thierry Nas. Merci, professeur François Chaste. Je recommande donc « Antibiotiques, la fin du miracle » demain soir sur Arte. Regardez-le également en replay ou sur l'appli Arte et faites circuler l'information autour de vous. C'est, à mon humble avis, un documentaire de salubrité publique. Dans un instant, l'intervention de salubrité publique également de Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est un très belle femme, par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que as. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme, par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse. Je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que plus. La yin est dans le yang, le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin.
Arthur H. interprété il, elle. Son Excellence Thierry Lhermitte est avec nous ce matin. Il est ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale. Chaque mois, vous visitez un labo, coup de projecteur ce matin, sur le projet de l'équipe de Jean-Sébastien Sylvestre et Philippe Ménaché.
Oui, ils sont tous deux responsables de l'équipe thérapie régénérative pour les maladies cardiaques et vasculaires au Paris Centre de recherche cardiovasculaire. Jean-Sébastien Sylvestre est directeur de recherche INSERM et le professeur Philippe Ménaché est chirurgien cardiaque. Et tous deux développent une thérapie à base de sécrétion de cellules souches pour traiter l'insuffisance cardiaque.
Alors cette recherche est très importante parce que l'insuffisance cardiaque touche une grande proportion de la population.
Oui, c'est 1 million de personnes qui sont en insuffisance cardiaque en France et environ 25 000 décès chaque année avec une augmentation de 30% dans les 15 dernières années. Alors chez les patients insuffisants cardiaques, le cœur est plus capable d'assurer son rôle de pompe et donc d'alimenter correctement l'organisme en sang. Le cœur ne peut plus alors répondre aux besoins énergétiques du corps et lui amener l'oxygène et les nutriments. Et une fois que cette pathologie est installée, en général, elle s'aggrave. Et 30 à 40% des patients qui ont fait un infarctus du myocarde développent une insuffisance cardiaque malgré une prise en charge adaptée, médicale et parfois chirurgicale. Et c'est à cette population de patients que s'adresse le traitement développé par Philippe Ménaché et Jean-Sébastien Sylvestre. Et il y a d'ailleurs une nouvelle population qui remplit les consultations. Ce sont les patients qui ont été soignés par certaines chimiothérapies et qui, pour une partie d'entre eux, développent une insuffisance cardiaque des années plus tard.
Alors Thierry, en 2014, les médias ont beaucoup relayé le succès d'une thérapie cellulaire réalisée par Philippe Ménaché chez une patiente en insuffisance cardiaque. Racontez-nous.
Ben oui, parce que c'est une première mondiale. Ça fait plus de 20 ans que Philippe Ménaché cherchait à remplacer les cellules cardiaques contractiles dysfonctionnelles chez les patients en insuffisance par de nouvelles cellules contractiles. Alors il a d'abord greffé chez les patients des cellules de muscles de la cuisse. Mais leur état s'est pas amélioré de manière notable, et entre autres désagréments, les cellules greffées ne se couplaient pas avec les cellules du cœur, c'est-à-dire qu'elles ne battaient pas ensemble, provoquant des arythmies dangereuses. L'équipe s'est alors recentrée sur la greffe de cellules proprement cardiaques, et pour les obtenir, ils ont utilisé des cellules souches embryonnaires, qui ont la particularité de pouvoir se transformer en tout type de cellules de l'organisme. Alors un petit rappel, les cellules souches, c'est une cellule indifférenciée, qui est capable à la fois de générer des cellules spécialisées, par différenciation cellulaire, et de se maintenir dans l'organisme. Donc ces cellules souches ont été pré-traitées pour les engager dans une voie de différenciation en cellules contractiles du cœur et en cellules vasculaires. Et puis les cellules déjà engagées ont été triées, placées sur un patch de fibrine qui a été greffé chez une patiente en 2014. C'était ça la première mondiale. Donc j'ai rencontré cette patiente qui s'appelle Jacqueline. Elle m'a raconté qu'avant l'opération, elle pouvait plus marcher. Elle dormait assise parce qu'elle avait de l'eau dans les poumons. Et donc elle n'a pas hésité à faire cette greffe et son état s'est très vite amélioré dès les premières semaines. Et aujourd'hui, elle se porte bien, elle vit normalement. On a fait la visite ensemble, elle a monté et descendu des escaliers. Et 6 patients en tout ont bénéficié de cette technique entre 2014 et 2016. La fonction cardiaque de chacun semble s'être améliorée, même si les pontages associés à la mise en place du patch y ont contribué.
Pourtant Thierry, les chercheurs ont été déçus par ces résultats.
Eh ben oui, parce qu'il y avait un effet clinique positif, mais il était déçu parce que les cellules greffées en fait ne survivaient pas très longtemps, quelques semaines. Et c'est à ce stade du projet que sa collaboration avec Jean-Sébastien Sylvestre a commencé. Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il était fort probable que l'effet thérapeutique observé provenait non pas des cellules souches elles-mêmes, mais de leur sécrétion sous forme de vésicules. Les vésicules, c'est des petites boules dans lesquelles il y a plein de produits.
Voilà. Alors est-ce qu'ils ont obtenu des résultats qui confirment cette nouvelle piste?
Absolument, ils ont mené des expériences chez des animaux malades. Chez certains, ils ont injecté des cellules souches et chez d'autres, uniquement les vésicules. Et ils sont aperçus que l'effet était le même, une amélioration significative de la fonction cardiaque. Ils sont donc passés d'une transplantation cellulaire à une thérapie où les cellules sont plus greffées, mais servent seulement à la production des vésicules.
Alors, quelles sont les étapes à venir? Que leur reste-t-il à faire?
Alors, aujourd'hui, les chercheurs ont donc leur produit thérapeutique, les vésicules. Et ils les produisent non plus à partir de cellules souches embryonnaires, mais à partir d'un autre type de cellules souches plus facile à cultiver, les cellules souches induites, les IPS, qu'on transforme en cellules cardiaques. Il reste encore à mieux comprendre comment les vésicules agissent et quelles sont leurs cibles. Et les chercheurs veulent aussi savoir s'il est nécessaire d'utiliser la totalité des vésicules sécrétées par les cellules souches ou si seules certaines d'entre elles sont efficaces. Et ils essaient également de trouver une manière moins invasive de les injecter chez le patient que le patch qui demande une opération lourde où on ouvre le thorax. Alors l'idéal, ça serait pouvoir le faire par injection intraveineuse ou d'apporter les vésicules localement par voie endovasculaire. Et de nombreuses étapes ont déjà été franchies, et si tout marche bien, il devrait lancer un essai clinique d'ici 2 à 3 ans sur 12 patients.
Merci Thierry Lhermitte, votre texte a été relu par Philippe Ménaché et Jean-Sébastien Sylvestre. Comment fait-on pour aider la Fondation pour la Recherche Médicale, pour aider cette équipe?
La FRM, voilà, finance cette équipe évidemment, et pour l'aider, c'est facile, ou bien par internet sur frm.org, mais encore plus facile, si on veut donner 10 euros, on envoie le mot don, D-O-N, en SMS au 92 300 et 10 euros seront prélevés sur votre facture de téléphone.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte, on se retrouve évidemment le mois prochain. Demain, on se demande si réussir est une simple histoire de volonté. Quand on veut, on peut. Pas si simple, nous dira le philosophe Gilles Verviche. Nous verrons que le mérite ne suffit pas pour réussir. Standard ouvert demain au 01 45 24 7000. Et puis exceptionnellement, nous enregistrons ce matin une émission consacrée à l'obsession du bien-être. Comment cette quête s'est imposée dans nos modes de vie. Dites-nous tout de suite sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse si vous estimez que nos sociétés sont devenues obsédées par le bien-être. À la technique ce matin, Alexandre Chénet et Rémi Sistiaga. À suivre, Maggie et sa bande originale.